Vous écoutez
RMC.
Football Show,
Benoît
Boutron. 19h pile sur RMC, le RMC Football Show jusqu'à 20h avec Fred Piquion. Le menu de cette deuxième heure, Lille, qui lance sa saison dimanche. Eh oui, Lille. Avec le trophée des champions contre le PSG, le LOSC, qui, je vous le rappelle, a perdu Maignan, Soumaré et surtout Christophe Galtier cet été. Alors, que peut-on attendre des Lillois cette saison? Supporters Lillois, on vous attend au 32-16. Olivier Fosseux, suiveur du LOSC pour la Voix du Nord, sera avec nous. À 19h25, c'est le direct. Vladimir Petkovic qui prend ses marques à Bordeaux. Le nouveau coach des Girondins vient d'être officiellement présenté. Que faut-il retenir de cette première apparition? Romain Asselin viendra débriefer la conf de presse avec nous. Et puis à 19h45, un invité Ligue 2, Fred, que tu connais bien. Nous sommes à la veille de la deuxième journée. Le président du Paris FC, Pierre Ferracci. Ouais,
mon président.
Sera avec nous. Ton ancien président.
Oui, non, oui, hein, mon ancien président.
Ah, t'es encore au Paris FC?
Non, non.
Ah, tu veux y retourner?
Pourquoi pas.
Allez, c'est reparti.
Et pourquoi pas.
RMC Football Show.
J'aime bien quand les mecs voilà, déposent des CV comme ça en direct. T'as raison, Fred, on sait jamais. Bon, on lui dira.
Hein, on va lui demander tout à l'heure.
Exactement. C'est donc la saison d'après qui démarre dès dimanche pour Lille. Le LOSC qui a tout juste eu le temps de savourer le 4e titre de champion de France de son histoire. Certains héros comme Maignan, Soumaré et surtout Galtier sont partis. Jocelyn Gourvennec a remplacé Galtier. Les deux autres n'ont toujours pas été remplacés. Alors que peut-on attendre des Lillois cette saison? Fred, avant d'accueillir notre invité, je précise que tu as connu cette situation. Tu arrives à Lyon en 2008.
Oui.
Lyon reste sur un magnifique doublé Coupe Championnat.
Oui.
C'est une nouvelle ère qui démarre avec Claude Puel. Donc il est tout nouveau projet à Lyon. Est-ce que c'est délicat comme ça de redémarrer quelque chose lorsque l'ancien groupe a tout gagné?
C'est délicat surtout si on n'a pas envie de faire de la continuité.
Eh oui.
C'est-à-dire que
si on marque une rupture, c'est compliqué.
Ce que j'ai connu, c'est que Claude Puel est arrivé avec des certitudes, ce qu'il avait connu à Lille, et il a voulu retransmettre un petit peu ce qu'il avait fait de très bien à Lille.
Ouais.
Sauf que quand on arrive dans un groupe comme Lyon avec de fortes personnalités et des joueurs leaders avec une forte personnalité aussi, quelquefois ça passe mal.
Ouais, parce que j'ai regardé, l'effectif avait peu bougé, c'est assez marrant, il y a des similitudes. Il y a juste Greg Coupé qui était parti, c'est Hugo Lloris qui a été installé dans les buts.
Exactement. Et puis après, derrière, c'était toujours pareil. Avec Chris, il y avait toujours Johnny, il y avait Karim qui était devant, Kader Keita qui était là, qui avait connu Claude Puel aussi.
Ouais.
Et donc, il y a eu sûrement des. Bon, j'étais pas dans les bureaux, mais il y a dû avoir des petites frictions. Et donc, cette année-là, on avait terminé troisième. Donc, malgré tout, ça a été une bonne saison.
Ouais.
Mais l'objectif du club, c'était d'aller chercher effectivement ce huitième titre. Maintenant, on est aujourd'hui, Lyon a surfé sur une vague hyper positive la saison dernière avec un Christophe Galtier qui a su surmotiver aussi ses troupes pour qu'il obtienne ce titre de champion de France jusqu'au bout. Je pense qu'il a été aussi malin dans sa communication parce que en mettant plus ou moins de pression à son groupe, parce que il a été, on se rappelle, hein, février, mars, il disait on va voir comment Paris va se comporter. Nous, on prend les points, on prend les matchs après les autres, et puis on fera les comptes vers la fin. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Donc ils ont pris ce titre de champion de France. Maintenant, Christophe Galtier apparemment a dit à tout le monde que ça faisait un moment qu'il voulait partir. Il en avait peut-être assez. Il avait peut-être fait son temps aussi à Lille.
Ouais.
Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé avec des certitudes ou pas. Moi, je suis pas là pour le juger. Je suis là surtout pour voir ses matchs.
Ouais, c'est un peu tôt.
Et que pour l'instant, les matchs ils ne donnent pas entière satisfaction ni au coach, ni à ce que peuvent produire aussi les joueurs, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ce sont quand même la plupart des joueurs qui étaient là la saison dernière.
Exactement.
Donc, est-ce qu'il y a une remise en question qui a été faite après un titre? Ça, je pense que ça a été fait. Mais le montrer sur le terrain, c'est autre chose.
Évidemment, et c'est toujours compliqué de digérer un tel exploit, Lille champion de France. On en parle avec Olivier Fosseux, qui est le suiveur du LOSC pour la Voix du Nord. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous.
Bah, c'est gentil, merci, bonsoir à tous les deux, bonsoir à tous les auditeurs.
Bah oui, on est ravis de vous accueillir, parce que lorsque Jean Baumel, notre ami, est en vacances, notre correspondant dans le Nord, on fait appel à la presse locale, puisque vous côtoyez les Lillois au quotidien.
Et c'est
vous sentez l'état d'esprit, du coup, comment on est en ce moment à Lille? Est-ce qu'on est inquiet, justement, dans la digestion de ce titre de champion de France?
Alors, je vais juste me permettre de, de rebondir par rapport à ce que disait Frédéric il y a quelques secondes et son, bah, voilà, son exemple sur c'est Lyon. Ah non, non, bah non, puisque vous l'avez vécu, donc c'était très intéressant. C'est juste pour vous dire que bah, sur ce qui me revient pour l'instant, en échangeant avec et José Font, et j'ai aussi pu échanger un petit peu avec Benjamin André, c'est que Jocelyn Gourvennec est arrivé plutôt discrètement, c'est-à-dire que il n'est pas arrivé. Les deux m'ont dit la même chose. Alors bon, voilà, on peut toujours interpréter, mais il est plutôt arrivé sur la pointe des pieds, en écoutant beaucoup, en dialoguant beaucoup, en s'appuyant sur ce qui avait été fait la saison dernière, plutôt bien puisque Lille a été champion de France.
Ouais. Et donc et lui, il est plus dans la continuité en fait.
Voilà, exactement.
Il a pas envie de tout casser.
Exactement. Benjamin André me disait hier justement qu'il avait plutôt apprécié ce côté bah j'arrive pas avec mes idées, je change tout parce que je suis aux commandes. Non, il a pris des, par exemple, il a maintenu pour l'instant le 4-4-2, donc, ce qui fait que les joueurs à l'entraînement sont pas bouleversés, il a pas tactiquement voilà, ils sont sur un schéma qu'ils connaissent par cœur. Mmh. Ensuite, vous évoquiez à juste titre les deux départs de Mike, bons joueurs, hein, notamment surtout Mike Maignan.
Ah, après,
Bouba Soumaré a fait une superbe fin de saison. Mais
Maignan, c'était clairement le meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière. Il y avait Navas, évidemment, mais qui a loupé quelques matchs.
Mmh. Oui, et puis il leur a permis de prendre des points importants ou pas en perdre sur des matchs clés. Ensuite, il avait un rôle de grand frère dans le vestiaire. Voilà, il y a tout ça rentre en compte. Alors qu'on annonçait quand même une grosse revue d'effectifs pour l'instant, c'est ce que disait José Font ce matin en conférence de presse, c'est qu'il n'y a que deux joueurs de partie et que l'effectif est encore assez costaud pour pouvoir prétendre au haut de tableau cette saison.
Olivier, c'est intéressant ce que vous dites et je vais faire réagir Fred parce que arriver comme ça pour Gourvennec, c'est délicat. Lui était libre, il n'avait pas de club depuis 2 ans, donc il était consultant, hein, il travaillait chez nos confrères de Canal+. Arriver chez le champion de France comme ça, des joueurs qui viennent de réaliser un exploit, des joueurs qui se connaissent très bien, qui sont tous très amis dans un schéma bien établi. Fred, c'est délicat quand même pour Gourvennec d'arriver là et de, même s'il veut imposer ses idées, faut y aller à tâtons.
Il faut y aller à tâtons, mais c'est excitant aussi, c'est un challenge excitant pour lui.
Je pense que ça se refuse pas.
Et puis peut-être qu'il va faire taire aussi certaines personnes qui jugent les entraîneurs parce qu'ils sont passés dans un club et que ça s'est pas bien passé. Maintenant, effectivement, c'est pas un gage de réussite ou de non réussite d'avoir pas eu des résultats avec Bordeaux ou avec Guingamp dernièrement. Maintenant, on arrive quand même dans un club où justement il est arrivé sur la pointe des pieds avec je pense qu'il a des certitudes dans le jeu. Il veut produire en tout cas du beau jeu et que les supporters se plaisent avec ces joueurs lillois. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est cette continuité qui peut mettre dans cet effectif, parler au cadre du vestiaire, parce que comme tu dis, parler à Fonté et à Benjamin André.
Déjà pour lui, le fait que Fonté ait prolongé d'un an, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, mais ce sont aussi les deux capitaines du LOS. Donc c'était clair qu'il fallait, c'était les deux joueurs à avoir en priorité dans cet effectif. Maintenant, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est cette histoire de mercato de gardien de but, parce que c'est quand même très important et.
Ouais. Et là, je suis complètement d'accord avec vous. Pour moi, c'est le
poste
gros
numéro
dossier
un
du moment.
Ouais. Léo Jardim, c'est pas un numéro un pour vous, Olivier?
Alors, je l'avais vu un petit peu jouer l'année où il était à Lille. Il avait fait un ou deux matchs. C'était plutôt bon. Il avait mérité un pénalty à Monaco, je me rappelle, en Coupe de la Ligue. Après, il a fait une bonne saison au Boavista. Là, sur les matchs de préparation, c'est mitigé, il faut être clair. Mais ça reste que des matchs de préparation. Il faut toujours un petit peu relativiser. Mais quand ce matin on lui pose la question, encore une fois, Jocelyn Gourvennec répète que le sujet est en réflexion, donc sous-entendu, on cherche. Et on sait tous que Lille a déjà multiplié les contacts auprès d'autres gardiens pour être numéro un. Donc j'ai envie de dire, c'est qu'ils sont pas encore convaincus.
Bah Olivier, on va l'écouter. On a le son effectivement de ce matin, la conférence de presse. On rappelle qu'on est à 2 jours du trophée des champions. L'avis de Gourvennec sur les gardiens au LOSC. Écoutez.
C'est une réflexion qu'on mène, qui était menée avant que je n'arrive et qu'on continue de mener. Léo Jardim a fait tous les matchs de prépa, il a tout joué. Il a été plutôt à l'aise. Après, il y a une réflexion large que l'on mène, que le club mène depuis un petit moment. Voilà, on se ferme aucune possibilité. Mais aujourd'hui, vous le voyez comme moi, le marché il est fermé de chez fermé. À part un ou deux clubs qui ont beaucoup bougé, mais aussi parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs en fin de contrat ou en fin de prêt. Ces clubs-là ont un peu plus évolué parce qu'ils avaient besoin de joueurs, mais pour les clubs qui ont eu assez peu de joueurs à partir, ça bouge pas. Donc c'est vrai que c'est un marché qui est assez fermé et on se donne du temps pour cette réflexion-là. Aujourd'hui, on fait confiance à Léo, bien sûr qu'il a fait une bonne préparation. Il est revenu de prêt, il retrouve ses habitudes ici à Lille et on doit être derrière lui.
Voilà. Pour l'instant, on est derrière lui en attendant que le numéro 1 arrive. En gros, c'est un peu ça.
Il ne s'est pas enflammé quand même.
Ouais, non, bien sûr. Non, mais évidemment. Mais il est obligé parce qu'il va. Ce Léo Jardim va disputer le trophée des champions. Donc, il est obligé de le mettre dans de bonnes conditions.
Quoi. Et, bah oui, imaginez qu'il dit. Qu'il dit ce matin en conférence, il ne fait pas l'affaire, on ne le garde pas. Imaginez à 48 heures du match, du premier match officiel. On ne peut pas se permettre de dire ça. Mais on sent bien entre les lignes. Que rien n'est acté.
Évidemment. Olivier Fosseux de la Voix du Nord est avec nous. On est avec Fred Piquion, c'est le RMC Football Show. On parle de la saison à venir pour le LOSC. Ça démarre dimanche sur RMC 20h, le trophée des champions. Lille, champion de France en titre. On accueille un supporter lillois au 32-16. C'est Paul. Salut Paul.
Bonjour Benoît, bonjour Fred, bonjour Olivier.
Alors Paul, je lis ta petite fiche. Et toi, t'es pas trop inquiet finalement pour ce début de saison?
Non, je suis pas trop inquiet, contrairement au discours un peu consensuel qui est catastrophiste sur Lille et qu'on entend maintenant depuis plusieurs années, sur le fait qu'on va se faire plier, sur le fait qu'on va pas pouvoir gérer à la fois le championnat et la compétition européenne, alors qu'on a très bien prouvé les dernières années qu'on pouvait le faire. Je suis pas inquiet parce qu'en fait, on a quand même gardé quasiment toute l'équipe. Hormis le gardien et Soumaré, on a gardé toute l'équipe. On a eu des joueurs qu'on avait prêtés l'an dernier qui reviennent et qui honnêtement ont beaucoup de talent, comme le petit Angel Gomez, qui à mon avis est pétri de talent. Il y a des jeunes qu'on avait déjà depuis un ou deux ans, comme Niazi ou Wea, qui vont avoir leur chance et qui ont montré de belles choses à chaque fois qu'ils ont joué. Et moi j'ai vu forcément tous les matchs de préparation et j'ai vu des très belles choses. J'ai vu des pressings très hauts, des blocs défensifs très solides. Bon, hormis quand j'avais un gros turnover pour donner du temps de jeu à tout le monde, j'ai vu des joueurs qui se connaissent bien, donc qui arrivent à bien combiner dans les tout petits espaces avec des jeux très fluides, très léchés.
Donc, connaît bien à Lille, vu que l'équipe a très peu bougé.
Contrairement à ce qu'on dit, l'équipe bouge peu. Alors, il va y avoir encore potentiellement une vente ou deux, mais globalement, la structure et l'ossature va pas beaucoup bouger. Après, là où je suis inquiet, où je vous rejoins, c'est le débat que vous venez d'avoir, c'est sur le gardien. Moi, Léo Jardim, je l'ai vu jouer. En tout cas, sur le match de préparation, il m'a pas du tout inspiré confiance. Et il me semble qu'il était à Boavista l'an dernier. Et ouais. Boavista, si je dis pas de bêtises, ils étaient relégables jusqu'à la fin.
Donc bon, très compliqué.
Quand on a un bon gardien, en général, on n'est pas relégable.
Bon, ça dépend.
Ça dépend. Ouais, Areola, il descendait avec flamme.
C'est pas faux. Mais non, je suis moins inquiet que ce qu'on veut bien dire. Et
mais alors Paul, reste avec nous. Olivier, c'est vrai qu'il y a des dossiers à gérer pour le président Létan à Lille. Il y a des joueurs qui sont susceptibles de partir. Je pense à Renato Sanchez qui pourrait partir, le milieu de terrain portugais. Il y a peut-être un bon de sortie pour d'autres. On a parlé de Burak Yılmaz qui pourrait partir. Ça serait quand même des sacrés coups durs.
Il y en a d'autres avant. Hein. Il connaît Bamba, bien sûr,
et Botman. Pourquoi pas Botman?
Ça serait un gros coup dur quand même. Botman, même si après, s'il y a vraiment une offre qui peut pas se refuser, mais ça serait vraiment un coup dur.
C'est ça qui est délicat, Olivier Fosseux.
Après, sur le début de votre de l'intervention là, générale sur Lille, j'avais pas trouvé qu'on était trop catastrophique.
Pas tant aujourd'hui, mais c'est plutôt généraliste.
D'accord. Mais après, c'est effectivement, il y a cet inconnu de quel groupe aura Jocelyn Gourvennec au 1er septembre. Parce que effectivement, le marché pour l'instant est assez calme. En échangeant avec plusieurs techniciens, beaucoup pensent que ça va bouger après le 15 août. Donc il suffit qu'il y ait un club français qui récupère des fonds, il peut investir ailleurs. Après, c'est une sorte de jeu de chaise musicale et on peut attaquer les Lillois parce que forcément, l'effectif Lillois est bankable. Hein. Vous avez quelques très très bons joueurs qui n'ont plus qu'une année de contrat. Ouais. Donc, je pense par exemple notamment à Reynildo. Je trouve que Ça fait trois mois qu'il a une prolongation. Enfin, lui, c'est représentant d'une prolongation lilloise entre les mains, et pour l'instant, il prolonge pas. Il est en position de force parce qu'il a 27 ans.
Ah,
il
c'est le Mbappé lillois alors.
Bon, j'irai pas jusque là, mais c'est un dossier qui est important à régler parce qu'imaginez que vous, Rinaldo est devenu quand même quelqu'un de cadre dans la défense.
Bah, c'est l'arrière gauche titulaire.
Si ça bascule dans les derniers jours du mercato, est-ce que vous avez un plan tout de suite pour réagir? Vous voyez, c'est plus là-dessus qu'il faudra être vigilant sur la bascule de l'effectif à la fin du mois. Okay. Après, si Gourvennec garde perd un ou deux joueurs et il y en a quand même un ou deux qui arrivent, Lille aura largement les moyens de rivaliser sur le haut du classement.
Ça restera
année.
Effectivement une équipe compétitive. C'est la question que j'avais posée à Paul, notre supporter lillois. Paul, quel objectif tu fixes à ton club pour la saison à venir au niveau du classement de la Ligue 1?
Si ça tenait qu'à moi, je dirais de reprendre le titre. Mais si on est un petit peu plus sérieux,
top
je pense
5,
que
top 3.
Ouais, voilà, exactement. Je pense que Lille a totalement les armes pour jouer le top 5. Et d'ailleurs, je pense que ça serait pour le coup, si l'effectif reste stable, quitte à perdre encore un joueur ou deux grand maximum, je pense que ce serait une contre-performance de pas être dans le top 5.
C'est ça l'objectif, Olivier, à Lille, le top 5.
Je pense que tout le monde prend goût au du classement et aux épopées européennes. Là, vous restez sur une saison où vous venez de faire Ligue des Champions et Ligue Europa. Là, vous êtes à nouveau en Ligue des Champions. Je les vois pas viser en dessous.
Exactement. A priori, faut les voir européens, les Lillois, avec l'effectif qu'ils ont pour l'instant. Faut voir ce que ça va donner, Fred, d'ici la fin du mercato, mais Lille semble en mesure de finir dans le top 5.
Ouais.
C'est dur.
Franchement, c'est compliqué.
Parce qu'il y a Monaco, il y a le PSG,
il y a Rennes, t'as Monaco, t'as Lyon.
Pour avoir ce que t'as Marseille.
Ouais, t'as l'Olympique de Marseille, et puis Rennes, normalement, doit se confondre avec tout, enfin, derrière le PSG, avec toutes ces équipes, parce que, finalement, Lille est quand même très solide quand ils ont envie de jouer ensemble, un bloc compact et qui va vite en contre. Il suffit que Bourak refasse une saison comme la saison dernière, emmener un petit peu cette locomotive qui a emmené tout son groupe, David qui marque des buts, Bamba et Ikoné qui retrouvent un petit peu aussi des couleurs.
Ouais.
Franchement, il y a une belle équipe. Hein.
C'est vrai.
Il y a Benjamin André dans le milieu, Renato il est pas encore parti. Franchement, il y a une belle équipe à Lille encore.
19h18, on parle du LOSC et de la saison à venir pour les Lillois. Merci Paul qui a été avec nous au 32-16, supporter de Lille. On te dit à bientôt sur RMC, Paul.
À très vite, passez une bonne journée.
Toi aussi. Et d'ailleurs, on vous donne cette info transfert que RMC Sport est en mesure de vous confirmer. Un accord a été trouvé d'ailleurs entre Hambourg et le LOSC pour le transfert d'Amadou Onana. Vous avez la même info, la Voix du Nord, Olivier Fosseux?
Capitaine de l'équipe. On annonçait aussi que on était proche d'un accord. Le joueur pourrait être en début de semaine à Luchin pour la visite médicale. Voilà. Donc c'est plutôt.
A priori, c'est le remplaçant de Soumaré, quoi. Voilà.
C'est ça. Mais pour l'instant, vous avez encore Cheka, vous avez aussi Nias, Sanchez est encore là. Mm-hmm. Pour le milieu de terrain, c'est.
Ah, mais ça va tourner de toute façon entre la Coupe d'Europe, plus le championnat et plus la Coupe, puisque c'est plus les Coupes, mais la Coupe. Il y aura beaucoup de matchs. Hein, donc, et puis les blessures, on ne sait pas. Voilà.
Ouais. En préparation, Jocelyn Gourvennec a aussi essayé Youssouf Yazici au milieu de terrain, à côté de Benjamin André, qui pourrait être une paire complémentaire aussi.
Moi non plus.
Ouais. Faut défendre, faut
courir. C'est un profil qui joue. Plus les devants, mieux c'est pour Lille, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est mieux, ouais.
Ah, mais c'est juste pour signaler. Mais,
ouais, d'accord.
Olivier, vous êtes plutôt emballé, Fred vous a refroidi, quoi, d'un coup, crac.
Non, j'ai pas été emballé, mais je me dis que parfois, pour décanter une situation, il faut aussi d'avoir des paires qui peuvent être un peu différentes. S'il faut aller chercher un score ou s'il faut le défendre, c'est pas la même chose.
Donc je le disais ce matin, il y avait conférence de presse de Jocelyn Gourvennec et de José Fonte qu'on va entendre dans un instant, puisque dans deux jours c'est le trophée des champions en Israël à Tel Aviv face au PSG. Justement, José Fonte a été interrogé sur le nouvel entraîneur de Lille. Qu'est-ce qu'il pense de Jocelyn Gourvennec? Écoutez.
Normalement, je crois, on a échangé 2-3 fois, on a parlé 20-30 minutes, bien, bonne personne, bon caractère. Les entraînements, j'ai la possibilité de voir qu'on continue avec les mêmes routines, manières de jouer. Et ça montre une grande intelligence du coach. Parce que pourquoi changer beaucoup quand tu as gagné le titre l'année dernière comme on a fait? Alors, c'est normal qu'il va petit à petit mettre son style, son philosophie.
Voilà, c'est plutôt encourageant de la part de José Fonte, effectivement. Et ouais. Au début, il répondait à la question, est-ce que tu seras encore capitaine? Oui, il sera encore capitaine, il a prolongé, ça reste le premier du vestiaire. Évidemment, mais c'est important, Fred, on le disait, de garder un garçon comme Fonte, qui a énormément d'expérience et qui est un cadre de cette équipe, de le garder justement en appui pour parler aux jeunes joueurs. Hein.
Fred. Ah oui, pardon, je croyais que tu parlais
à notre ami.
Ouais, mais c'est clair qu'il fallait absolument le garder, et puis lui aussi il était totalement d'accord, hein. Je crois que il a fini son euro et peut-être que les discussions avaient même démarré un petit peu avant, et puis après tout de suite l'euro terminé, on a tout de suite conclu à l'accord parce que c'est un garçon qui a été un leader dans tous les domaines dans cette équipe, et puis je le voyais pas aller dans un autre club, peut-être terminer sa carrière peut-être au Portugal, mais en tout cas il avait envie de connaître, je vais pas dire reconnaître, puisque la Ligue des Champions avec Lille avait été un peu compliquée.
Ah oui.
Sur la première fois. Mmh. Donc là, il revient quand même avec un plus de certitude, je pense.
C'est ça l'enjeu aussi, Olivier Fosseux, c'est les performances qui soient analysées en Ligue des Champions. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire pour Jocelyn Gourvennec.
Là, on va voir un peu le groupe dans lequel Lille va tomber, parce que ça va être. Ça sera costaud, parce qu'il y a deux ans. Il est tombé sur un groupe assez costaud, hein, avec Chelsea, l'Ajax, Valence, alors que même si au départ on pensait qu'il avait sa chance, très vite on s'est aperçu que l'expérience et
Lille faisait des bons matchs, mais Lille perdait systématiquement.
Et donc l'écart était là. Hein, donc normalement depuis deux ans, comme le groupe pour l'instant la majorité du groupe est là, on verra peut-être une évolution positive.
Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers chauds au niveau du mercato? Est-ce que vous avez des infos auprès du LOSC? Quels sont les postes recherchés, Olivier? Vous avez quelques billes?
Mais je sais qu'il y a toujours une interrogation sur le poste de défenseur central, parce que si jamais Botman est attaqué, il faut avoir un plan de secours. Il y a aussi toujours l'inconnu Zeki Sialik, qui avait beaucoup de courtisans en Italie, notamment avant l'Euro. Donc, il faudrait voir un petit peu comment ça se passe dans les trois prochaines semaines, s'il y a toujours des gros clubs qui reviennent à la charge pour l'attirer, parce que Zeki, ça fait déjà 3 ans qu'il est là. Donc, ça peut être un moment aussi.
C'est peut-être le moment de le vendre, vous avez raison.
Voilà.
Ouais. Et vous avez vu cette info, hein, d'ailleurs, il y a eu bagarre en match amical entre Sheka et Thiago Diallo. Rapport de l'arbitre, du coup la commission de la Fédération Française s'en est mêlée, et les joueurs seront suspendus pour le début de la Ligue 1. Ils vont pouvoir disputer le trophée des champions. C'est assez dingue quand même. Lille qui avait joué une seconde période de match amical à 9 contre 11, et les deux joueurs seront suspendus pour la première journée. Il y a même un deuxième match de suspension pour Diallo, Olivier.
Voilà, oui, j'ai vu ça aussi.
C'est une surprise quand même.
Je crois que ça s'est jamais arrivé.
Moi, j'ai jamais vu ça. Suspendu après un rouge en amical.
Je sais pas.
Ouais. Bah, disons que le règlement. Déjà, deux joueurs de la même équipe qui se battent.
Oui, déjà, c'est rare.
Enfin, qui se battent, qui en tout cas s'embrouillent. Ça n'a pas non plus été la bagarre de rue. Hein, qui s'embrouillent, c'est pas banal. Bon, comme il y a deux cartons rouges, c'est ça l'histoire.
Comme il y a
deux cartons rouges, il y a un rapport de l'arbitre. Et quand c'est comme ça, c'est la Fédé est chargée de juger. Et il faut savoir que. Alors moi j'ai pas eu rapport de l'arbitre sous les yeux, mais à partir du moment où il y a rapport par rapport à ces quatre figures là, ça peut aller jusqu'à 7 matchs de suspension, faut le savoir, hein, quand même. Comme c'est, de toute façon c'est toujours comme il y a le mot coup le rapport, ben, à partir de là coup c'est tout et c'est rien, hein. Donc ce qui est dommage c'est que c'est le club qui est pénalisé par la bêtise de ces deux joueurs, hein. Pour moi il n'y a pas d'autre mot. Parce que ces deux solutions en moins pour Jocelyn Gourvennec pour le premier match à Metz.
Ça sera à Metz contre Nice et à Saint-Etienne pour le LOSC qu'on va suivre avec beaucoup d'attention sur RMC. Merci Olivier Fosseux d'avoir été avec nous.
Je rappelle que vous êtes merci de votre accueil.
Suiveur du LOSC dans la Voix du Nord, hein, le journal de référence dans le Nord, évidemment.
On va sûrement suivre sur Twitter.
Voilà, vous embrassez Jean Baumel de notre part et puis on vous dit à bientôt sur les antennes d'RMC.
Ça sera fait et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne soirée. À bientôt.
Avec plaisir, merci. 19h25, je vous rappelle l'autre info de la journée quand même, c'est qu'RMC Sport va retransmettre pour les trois prochaines saisons les quatre Coupes d'Europe de football, la Champions League avec les deux meilleures affiches par journée, l'Europa League, le repas Conference League pour le Stade Rennais Fred Piquion et même la Super Coupe d'Europe, ce sera dès le 11 août. Et évidemment, vous pouvez être au rendez-vous. Donc RMC Sport reste présent sur les Coupes d'Europe de foot. 19h25, Fred, tu restes là.
Ouais.
Dans un instant, direction Bordeaux. Ça y est, Vladimir Petkovic, le nouvel entraîneur des Girondins, a été présenté. On fait le point dans un instant avec Romain Asselin. À tout de suite sur RMC.
RMC Football Show, Benoît
Boutron. Avec Fred Piquion jusqu'à 20h sur RMC, heure à laquelle vous retrouverez Adrien Aiguin pour l'After Tokyo 2020 avec la Dream Team RMC Sport. On reviendra évidemment sur la médaille de bronze décrochée par Teddy Riner chez les Lourds en judo. Médaille de bronze également pour la judokate féminine. Ça fait deux médailles donc pour les Bleus aujourd'hui. Bon, on attendait l'or pour Teddy, on est un peu déçu forcément Fred Piquet.
Ouais, on est un peu déçu, mais bon, c'est quand même un grand champion. Hein. Après, il a été repêché, il a été quand même chercher cette troisième médaille, cette médaille de bronze. Donc, non, il faut lui tirer juste un grand coup de chapeau parce que c'est un athlète hors norme qui est magnifique. Donc, il faut qu'il reste encore comme ça et peut-être qu'en 2024, il sera encore là.
Et c'est sa quatrième médaille olympique. C'est Romain Dicot qui a décroché le bronze également. Romain Dicot qui est membre de la Dream Team RMC Sport. Donc, Teddy Riner ira à 2024. C'est également l'info à retenir ce soir sur RMC. Dans un quart d'heure, un rendez-vous Ligue 2. Nous serons en direct avec le président du Paris FC, Pierre Ferracci, puisque Fred veut lui déposer son CV, évidemment. Mais l'événement de la journée, c'était à Bordeaux, la présentation officielle de Vladimir Petkovic, nouvel entraîneur des Girondins, on va en parler avec Romain Asselin qui a suivi la conférence de presse qui vient de s'achever. Salut Romain.
Salut messieurs. Bonsoir Romain.
Alors comment ça s'est passé? Quelle était l'ambiance? Est-ce que tu as trouvé un Vladimir Petkovic détendu pour son arrivée à Bordeaux?
C'est pas le mot que j'emploierais. Il s'est pas passé grand chose, franchement. Faut tout vous dire.
Bah ouais,
on avait l'impression que c'était... déçu, non, franchement, on s'attendait pas à grand chose. Déjà d'une part parce que il s'exprimait en italien. Ça met une barrière, c'est-à-dire que en plus la traduction était franchement pas géniale. Enfin, faut le dire, il faisait des phrases d'une minute, on avait une traduction de 20 secondes.
Ah oui.
Donc c'est compliqué de relancer. ouais, c'est un peu ça.
Entre la présentation par vidéo et la présentation, rien à voir.
Je pense qu'il avait pas trop envie. Fallait le faire. Un peu comme Gérard Lopez en fait, il y a une semaine, hein, jour pour jour. Vendredi dernier, le nouveau président des Girondins de Bordeaux, qui a tenu une conférence de presse, qui a bien souligné pendant la conférence que c'était pas franchement son exercice favori. S'il avait pu s'en passer, il s'en serait passé. Et on a eu quasiment le copier-coller dans les déclarations. Donc rien de neuf, la volonté d'amener du changement, mais pas trop non plus. Mais surtout la volonté de botter les fesses des joueurs. Vladimir Petkovic, il a dit à un moment, voilà, bon, tout le monde part à 100%. Il n'a pas eu trop le temps d'étudier l'effectif. Tout le monde part à 100%. Maintenant, les joueurs ont une semaine avant le début du championnat pour montrer s'ils veulent gagner du terrain ou perdre du terrain. À partir de ce moment-là, on fera un état des lieux. Et ça, Gérard Lopez l'avait dit dès la semaine dernière, il va y avoir beaucoup de départs pour beaucoup d'arrivées. Voilà, l'effectif va considérablement changer dans les semaines à venir jusqu'à la fin du mercato. Ouais, exactement. Il faut gagner sa place maintenant, sachant qu'il y en a, je pense qu'ils sont directement au placard et que on va le savoir très très vite. Ça va bouger dans les jours qui viennent. Mais Admar Lopez, le nouveau directeur technique des Girondins de Bordeaux, on se demandait ce qui se faisait là. Hein. C'est-à-dire qu'on lui a posé deux questions, il a répondu en une seconde. Il avait envie de rien dire. Donc pas d'arrivée officialisée, pas de départ non plus. Mm-hmm. On est sur une conférence de presse simplement, on va dire. pour la forme, pour dire bon, coucou, je suis là, j'arrive. C'était pas prévu. J'allais partir en vacances et puis tout d'un coup on m'a appelé. C'était un petit peu la surprise générale. On a discuté avec le président, on s'est mis d'accord sur un point principal, c'est le fait de haïr la défaite. Et à partir de là, la négociation a été très rapide. On s'est serré la main et puis banco, c'est parti.
Bon, et ben on va l'écouter. Tiens, Petkovic, à ton micro, sur son arrivée à Bordeaux, le nouvel entraîneur des Girondins.
Je voulais faire quelque chose de différent après 7 ans avec la Suisse. Je suis parti en vacances et à la surprise générale, Bordeaux m'a contacté. J'ai sauté sur l'occasion immédiatement.
Voilà, on l'a bien entendu que c'était en italien. C'est ce que tu nous as bien résumé, effectivement. C'est des réponses assez courtes. Écoutez-le maintenant sur le club des Girondins. Est-ce qu'il le connaissait ? Écoutez.
Quand on dit Bordeaux, on parle d'un club prestigieux, une région prestigieuse et des supporters prestigieux. On n'est pas venu ici pour tout changer, mais je déteste la défaite et on va se mettre au travail pour relever le niveau.
Et voilà, c'était tout ce qui s'est passé en conférence.
Il comprend le français, hein, les gars, oui, mais il a dit, voilà, aujourd'hui, je ne le maîtrise pas suffisamment. Je peux diriger un entraînement en français, ça va le faire. M'en demandez pas beaucoup plus. Et c'est vrai que, tu le disais, hein, ça a foutu une barrière directe.
Déjà, forcément. S'exprimer dans une langue étrangère, ça met une barrière. On le voit depuis plusieurs mois avec Mauricio Pochettino. C'est assez compliqué d'aller chercher des réponses intéressantes parce que.
Après, il y a beaucoup d'internationaux aussi. Il y a beaucoup d'internationaux étrangers aussi
à Paris.
Donc, ça, Pochettino, ok. Toi, t'as envie qu'il s'exprime.
Oui, mais ce qu'on veut dire, c'est que ça favorise pas le dialogue.
Médias, mais après,
voilà, par rapport aux médias, et du coup, indirectement via les supporters, quoi.
Tu vois. Et c'est ça.
Mais. Ce qui est important, c'est pas forcément la communication, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Est-ce qu'on sait avec combien d'adjoints il débarque d'ailleurs, Romain ?
Ah, écoute, pour l'instant, non, pas du tout. Ça fait partie des questions qui lui ont été posées. Ça discute. Probablement qu'il viendra avec son adjoint de la Nati. Mmh. Peut-être aussi un entraîneur des gardiens, puisque Fabrice Grange est parti en même temps que Jean-Louis Gasset, le préparateur des gardiens. Maintenant, je pense qu'on y verra plus clair en milieu de semaine. Il sera au match hein, demain à 3. Et ensuite, il va prendre deux jours à deux jours et demi, nous a-t-il dit, pour vraiment discuter avec les joueurs. Et puis en interne, pour voir un petit peu ce qui va se passer, parce que ça presse, hein, championnat dans une semaine.
Évidemment.
Et effectivement, il disait que il a vu les Girondins jouer à la télé, mais c'est pas la même chose que de s'apercevoir de visu dans un stade le potentiel de cette équipe. En tout cas, il a dit qu'une chose, c'est que Bordeaux ne peut faire que mieux, en fait. Il faut élever le niveau.
Bordeaux qui démarrera à domicile contre Clermont dimanche de la semaine prochaine, donc à 15h sur RMC. Il y a une question qu'on avait envie de lui poser, qui lui a été posée, j'imagine, Romain, c'est qu'est-ce que ça lui fait de redevenir entraîneur au quotidien, lui qui était sélectionneur depuis des années. C'est pas le même métier quand même, Romain.
C'est pas le même métier, mais bon, tu vois, il a eu une réponse aussi très très courte à ce sujet, et il a dit j'étais pas seulement sélectionneur, j'essayais d'entraîner aussi. Alors, toute la subtilité de la chose, hein, je pense que Fred est peut-être mieux placé pour en parler que moi, mais on sent qu'il a jamais perdu cette flamme-là de vouloir entraîner, et même quand il était à la Nati, il a gardé des vieux réflexes, Fred, non, je pense qu'on peut parler de ça.
Oui, en fait, c'est parce qu'il a envie d'être, je vais pas dire directif, mais en tout cas être... faire partie de l'entraînement. Il y a beaucoup de sélectionneurs ou de même d'entraîneurs qui aujourd'hui ont un rôle plus de management,
c'est-à-dire qu'ils regardent un adjoints. Peu,
ouais, qui s'appuie beaucoup sur les jardins, sur les jardins, sur les adjoints, mais ont un recul assez profond pour voir l'ensemble, en tout cas de l'entraînement. Même, et lui, c'est pas ce qu'il veut. Il veut mettre les mains dans le cambouis, il veut mettre les mains dans l'entraînement et diriger son équipe au quotidien.
On peut dire que tactiquement, il a mis des choses en place avec la Suisse, hein, cette défense à trois, cette façon de jouer, c'est lui qui l'a imposé aux joueurs de la Nati qui ont sorti l'équipe de France à l'Euro, on le rappelle, en huitième de finale. Romain, reste là. Fred, toi aussi, on accueille Élie, supporter bordelais au 32-16. Salut Élie.
Bonsoir messieurs.
Bon,
bonsoir,
Élie, je vois que tu n'étais pas emballé par le nouveau projet des Girondins. J'imagine que c'est pas cette conférence de presse qui te convainc plus, hein.
Bah, c'est pas que j'étais pas emballé, c'est que on va dire que le projet de Gérard Lopez, c'est le seul qui était là, c'est ou Gérard Lopez ou la disparition du club. Mmh. Donc, moi je remercie Gérard Lopez. Je suis peut-être pas autant emballé que d'autres supporters. les autres suiveurs des Girondins, mais Gérard Lopez a quand même sauvé le club, et pour ça, il faut lui rendre reconnaissant. Après, peu importe les moyens, peu importe la dette qu'il y aura, etc., et au moins, Bordeaux est toujours en vie. On va dire qu'ils ont mis des bonbonnes de gaz pour respirer. Concernant la conférence de presse, bon, c'est une simple conférence de presse de présentation. Alors oui, moi aussi, de même manière, j'étais pas autant emballé sur Petkovic, j'étais plus emballé sur Admar Lopez, qui est en train de faire un bon travail. Enfin, on voit les pistes qui sont en train d'être menées. Mais sur Petkovic, c'est vrai que moi, j'ai mis le doute qu'un entraîneur qui n'a plus entraîné de club depuis 8 ans, qui a été sélectionneur, qui n'est pas le même métier, va pouvoir, j'espère, s'adapter vite à un club comme Bordeaux qui a besoin vraiment d'un nouveau souffle, de résultats. Alors, il a la chance, enfin la chance entre guillemets, c'est qu'il a signé pour 3 ans.
Ouais.
Donc c'est quand même un contrat pour la durée. Gérard Lopez, il a quand même dit la semaine dernière en conférence de presse qu'il visait dans un premier temps la première partie de tableau. Donc ça lui enlève, on va dire, une pression pour la première année.
Il a le temps de travailler.
Et la troisième année, c'est-à-dire qu'il a le temps de travailler comme de la même manière qu'il a travaillé, on va dire, pour la Nati. C'est pas le même travail, mais après, c'est sûr qu'il pourra pas terminer 12e, 13e, comme les autres années auparavant, au Girondin de Bordeaux. Je pense que c'est un avantage pour lui, d'avoir signé 3 ans et de pas avoir cette pression-là. Il va s'adapter aussi au transfert qu'il aura, les joueurs à sa disposition. Je pense qu'il y a un vrai travail qui va être fait. Donc, on parle même d'une petite passerelle en ce moment avec Boavista. Hein. On voit des joueurs qui vont certainement signer là aujourd'hui. L'arrière gauche et le milieu gauche. Donc c'est intéressant de voir ce qui va se passer. C'est quand même mieux que, je pense, que malheureusement Jean-Louis Gasset, parce qu'il fallait que Jean-Louis Gasset parte, parce qu'il fallait écrire une nouvelle histoire et que c'était nécessaire, même si j'ai beaucoup de respect pour Jean-Louis Gasset et qui a fait un travail de sauvetage du club. Mais ça, il faudra lui en être reconnaissant. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou. Donc, c'est une conférence de presse où on n'a pas appris grand chose. C'est simplement une conférence de presse de présentation. Mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, j'étais un peu surpris de ce choix-là. J'aurais peut-être plus vu un entraîneur, on va dire, un jeune entraîneur qui s'est fait pour le trading qu'un entraîneur comme Petkovic qui a assez expérimenté. Mais pourquoi pas, hein. Moi, je donne ma chance au produit. Ouais, je veux voir ce que Petkovic va donner.
On a l'impression que Gérard Lopez est allé chercher un homme à poigne, en fait, et qu'il avait envie de secouer un petit peu tout le monde et de se dire, voilà, il faut remettre un peu d'autorité, relancer les joueurs, les remotiver pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça qui a convaincu Gérard Lopez. C'était son choix numéro 1, Vladimir Petkovic.
C'est ça. Bordeaux, c'est un peu la belle endormie, comme on l'appelle. Bordeaux, toutes les conférences de presse que j'ai vues sur les repreneurs différents, sur Paulo Souza quand il est arrivé, c'est on veut réveiller ce club-là, on veut réveiller ce club-là. C'est inadmissible.
C'est dur à réveiller,
il y a trop, voilà, mais ça fait beaucoup de personnes le disent, mais c'est vrai, c'est le fameux complexe, le fameux constat qui est à Bordeaux, c'est qu'on est bien, on est pépère, on est tranquille et on se réveille pas, on se bouge pas. Alors Petkovic, oui, il a un peu le look, en tout cas physiquement, de Père Fouettard, un peu. Ce côté un peu bossien, un peu énervé, qui va vouloir faire les choses à sa manière. Pourquoi pas? Il faut bouger le club, il faut réveiller, mais après il faut aussi avoir les joueurs pour et le système pour, et on espère que Bordeaux va se réveiller une bonne fois pour cette année. En tout cas, avoir des résultats qui seront en adéquation avec le palmarès du club.
Bien sûr.
Dis pas que Bordeaux doit finir 12e, pas ni 2e, mais au moins finir, se rapprocher des places de la 5e, 6e place. C'est la place que doit avoir Bordeaux, qui est un club prestigieux, qui est pour moi l'un des plus grands clubs français, sans avec toute objectivité.
Merci Eddy d'avoir été avec nous. Vas-y, on t'en prie, vas-y.
Petite dédicace à ma future femme, Alexandra.
Ah.
Parce que j'ai demandé en mariage il y a pas longtemps.
Elle a dit oui.
Et qui aime les Girondins comme moi. Donc,
d'accord.
Je l'aime très fort et elle doit m'écouter.
Très bien.
Merci, les gars.
Et apparemment, elle a dit oui. Si tu en
vois comme ça. Bien sûr qu'elle a dit oui.
En toute objectivité.
C'est pourquoi le mariage, Ellie, alors?
En toute objectivité.
C'est pourquoi, Ellie, le mariage?
Ah, c'est pour l'année prochaine, juillet 2022.
Bon, très bien. Et on espère que ce sera un bon mariage.
Vous êtes invité.
On espère. Mais surtout, on s'en souvient. Attention. Et c'est dans la boîte.
Attention, c'est dans la boîte.
Et on est
nombreux. Merci, Ellie. À bientôt sur RMC.
C'est voyant.
Ellie qui nous invite à son mariage. C'est fantastique. 19h43. On remercie Romain Asselin qui était avec nous pour parler des Girondins. Merci, Romain. À bientôt, évidemment, pour reparler des Girondins. Et à 19h43, on marque une dernière pause dans un instant. Un invité Ligue 2, Pierre Ferracci, le président du Paris FC, un club ambitieux cette saison. À tout de suite sur RMC.
RMC Football Show.
Benoît Boutron. Avec jusqu'à 20h sur RMC, dans un gros quart d'heure, vont trouver l'After Tokyo 2020 avec Adrien Aiguin. On va revenir sur les 2 médailles de bronze en judo aujourd'hui, celle de Teddy Riner évidemment et celle de Roman Dico qui est membre de la Dream Team.
RMC Sport. Mais on s'intéresse également à la Ligue 2. Demain, coup d'envoi de la deuxième journée. Caen qui reçoit Sochaux à 15h. Et puis ensuite, 8 matchs à suivre dans le RMC Football Show dès 19h. Honneur au leader ce soir, le Paris FC. Eh oui, une journée, Paris est déjà devant. Paris vainqueur 4-0 contre Grenoble le week-end dernier. Paris qui se déplacera demain au Havre. On est en direct avec le président du Paris FC, Pierre Ferracci. Bonsoir, président.
Bonsoir.
Bonsoir, président.
Bon, président.
Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Benoît.
Un match, une victoire 4-0, début de saison parfait, quoi. C'est fou.
Oui, mais on reçoit Dunkerque hein, demain. Le Havre, c'est la semaine prochaine.
Ah, c'est Dunkerque, c'est vrai. Excusez-moi. Oui. Ouais. C'est à domicile, c'est au Stade Charletti. Ouais. Bon, bah, c'est encore plus facile.
Après, démarrage sympathique, mais c'est une journée sur 38. Hein. Il en reste 37, donc on va pas tomber dans l'euphorie et on prend ça avec plaisir. Mmh. Mais le chemin est long, on est bien placé pour le savoir. L'an dernier, on avait démarré très fort et puis on a faibli par la suite.
Alors justement, quelle leçon vous avez tiré de la saison dernière? Vous étiez parti très fort, vous le disiez, vous étiez largement en tête au bout de 10 journées. Et ensuite, ça s'est un petit peu délité, même si vous avez quand même fini en barrage. Donc c'était quand même une saison réussie pour Paris FC.
Oui, on a bien fini, on a eu un creux au milieu terrible. Ben, les leçons qu'on en a tirées, c'est de garder une certaine stabilité de l'effectif. On a gardé quand même un gros noyau de l'an dernier, parce que c'est ce qui manquait au Paris FC ces dernières années. Et peut-être que l'an dernier, on avait encore une équipe expérimentale qui s'était constituée à l'intersaison et qui manquait justement d'expérience. Donc on a essayé de garder cette stabilité, puis de l'améliorer en même temps avec quelques recrutements bien ciblés.
Le changement principal, c'est l'entraîneur. La fin de l'histoire avec René Girard, l'arrivée de Thierry Loret qui arrive en provenance de Strasbourg, c'est une preuve d'ambition, voir Loret débarquer en Ligue 2 ?
Ben, je crois que le Paris FC n'aurait pas attiré quelqu'un comme Thierry Loret il y a quelques années. Il a aujourd'hui à la fois des installations de qualité, et puis quand on fait deux fois les barrages en trois ans, ben, on a une certaine crédibilité pour jouer la montée en Ligue 1, même si je n'arrête pas de dire qu'une montée en Ligue 1, ça se travaille, ça ne se programme pas. Et on continue à travailler pour améliorer ce qu'on a fait ces dernières années.
Ouais, justement, président, moi, on se connaît bien, j'ai bien connu le club quand on était en plus à Choisy. Après, il fallait jouer à Charletti, etc. Mais la structuration impressionnante du club, entre le centre d'entraînement qui est tout neuf, entre le centre de formation et qui a livré son bâtiment, il me semble, il y a quelques jours ou quelques semaines. Les pelouses hybrides que vous avez mis aussi au niveau de l'entraînement, comme ça, il y a quand même de la bonne. Au niveau de l'entraînement, c'est impressionnant. Et moi, je trouve que vraiment, c'est l'objectif de monter quand même est clair avec la venue de Thierry Loret. Maintenant, est-ce que c'est pour cette année ou on attend encore un petit peu?
Alors écoutez, bon, Frédéric, vous avez raison de souligner qu'on investit, on a investi en deux ans et demi 9 millions d'euros, hein, ce qui pour un club de Ligue 2 à Orly est beaucoup. On vient de rénover les deux terrains à côté de la pelouse hybride que vous évoquez, amener l'éclairage d'ailleurs sur le terrain Mamadou Sakho, l'internat du centre de formation s'est géré. Donc on investit beaucoup. Bon, après, vous savez, il y a une douzaine de clubs qui cherchent à monter en Ligue 2, en Ligue 1. Il y a deux clubs qui descendent et qui sont ambitieux comme Dijon et Nîmes. Bon, j'espère qu'on sera dans la course. Et le démarrage qu'on a eu à Guignon, puisqu'on jouait sur terrain neutre, on se déplaçait, mais on jouait sur terrain neutre, est plutôt prometteur. Après, vous savez, on démarre la saison avec nos trois défenseurs centraux principaux qui sont out. Et deux pour de longs mois, Axel Bamba et Youssoupha Ndiaye. Bon, en même temps, ça met en évidence nos jeunes. Vous verrez que demain, contre Dunkerque, il y aura trois gamins de 18 ans.
Ouais, j'ai vu un 2004
aussi. Il y en a même un de 16 ans sur le banc.
C'est ça.
Bon, ça permet de mettre en évidence le travail qu'on fait en matière de formation, parce que c'est aussi l'ambition du club. Après, j'espère qu'on sera dans la course et que après la première journée, on tombera pas dans l'euphorie, on continuera notre chemin. Mais on sait qu'on aura des moments difficiles.
Ouais.
Mais je suis persuadé qu'on sera dans la course. Thierry a l'habitude, hein, il a fait monter Strasbourg en Ligue 1. Il a fait aussi monter mon club de cœur, le Gazélec d'Ajaccio, en Ligue 2 puis en Ligue 1.
C'est ça.
Donc voilà, il connaît bien la Ligue 2 après avoir passé des années en Ligue 1. Il connaît aussi bien la Ligue 2. Donc on compte sur lui pour travailler correctement. Et encore une fois, en travaillant correctement, je suis persuadé qu'on va y arriver.
Pierre Ferracci est avec nous, le président du Paris FC.
En parlant de formation, j'ai vu que vous avez fait signer aussi pas mal de jeunes joueurs. Aujourd'hui, est-ce que le Paris FC fait partie du deuxième choix parisien au niveau du recrutement des jeunes?
Vous savez, je crois qu'on a aujourd'hui la capacité d'attirer beaucoup, beaucoup de jeunes de la région parisienne, où le potentiel, on le sait tous, est exceptionnel. Ouais. Bon, aujourd'hui, on trie, quoi. Malheureusement, on n'a pas de place pour tout le monde. Mais on était l'an dernier le club après Rennes qui avait le plus de sélectionnés dans les équipes de France de 16 ans, 17 ans et 18 ans. Ouais. On fait la même chose chez les féminines. D'ailleurs, on a aussi d'excellentes jeunes joueuses. Mm-hmm. Donc, on va continuer sur cette voie-là. Vous savez, on n'a pas les moyens du grand club d'à côté, même si on investit beaucoup. Donc, demain, la colonne vertébrale du club, elle sera faite de jeunes franciliens. Et puis, avec des joueurs expérimentés à côté d'eux, je suis persuadé qu'on va, on va arriver à atteindre ce Graal qui est l'accession en Ligue 1. Depuis 40 ans, tout le monde en parle, personne ne l'a fait. Je crois qu'on a les moyens aujourd'hui de continuer sur la bonne trajectoire.
En parlant d'expérimenter, vous avez re-signé Vincent de Marconnet, qui est là depuis un certain temps. Et ça, c'est aussi une bonne chose.
C'est la légende du club.
C'est une continuité.
Oui, on lui met un peu de concurrence, puisqu'on a annoncé aujourd'hui qu'on avait un gardien croate qui arrivait.
Ivan Filipović.
Mais Vincent, il est dans sa 39e année, c'est un pilier du club, il est là depuis 13 ou 14 ans. On compte sur lui pour entraîner tout le monde, et puis il va être difficile à déloger. Il y aura de la concurrence pour le poste de gardien, mais Vincent, il n'a pas eu grand-chose à faire d'ailleurs grâce à la belle défense avec les jeunes qu'on avait à Guignon. Mais il sait très bien que dans les matchs suivants, il aura aussi à s'employer, donc on compte aussi sur lui.
Alors Pierre Faracci, vous nous connaissez bien, on a de bonnes infos à RMC Sport. On sait que vous cherchez en défense centrale, vous le disiez, Axel Bamba s'est blessé pour de longs mois. Il paraît que vous cherchez même à recruter des profils expérimentés en Ligue 1, est-ce que c'est vrai ?
On cherche à recruter, en tout cas en défense centrale, un profil expérimenté. Je pense qu'on annoncera dans le courant de la semaine prochaine l'arrivée de quelqu'un d'expérimenté. Vous savez, il y a la Ligue 1 et puis aussi les championnats étrangers. Hein. Donc le club recrute beaucoup en région parisienne et sur le territoire national. Et puis de temps en temps, comme il vient de le faire pour son gardien croate, il regarde à l'étranger. Et je crois qu'on pourra annoncer une bonne nouvelle la semaine prochaine.
Est-ce que ça sera un francophone ?
Ça sera quelqu'un qui parlera français pour s'exprimer avec les défenseurs qu'il a autour de lui.
Et oui, évidemment.
C'est super important.
Écoute-moi, Fred, compte sur Loïc Tanzi pour sortir l'info avant les autres. si on prend un peu de recul et qu'on observe cette saison, Pierre Ferracci, malheureusement, c'est déjà perturbé par le Covid avec le cluster qui a lieu en ce moment à Bastia. Est-ce que ça vous inquiète, vous, président du Paris FC ?
Bah écoutez, si demain il y aura beaucoup de jeunes sur le terrain, c'est qu'on est aussi un petit peu touché, moins que Bastia. Ouais. Mais en dehors des blessures sérieuses de Ndiaye et de Axel Bamba, on a des petites conséquences de la pandémie en ce moment aussi. Voilà.
Ouais. Donc c'est déjà perturbant pour un club comme le vôtre.
Ouais. Ah ben bien sûr, et je crois que tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 vont avoir à faire face à le Delta. Là, il touche. Ouais. Alors il a l'air moins dangereux. Il n'y a pas de conséquences très nocives. Mais bon, vous savez qu'on est obligé de s'arrêter et on perd en général 15 jours à 3 semaines quand on est positif, quoi.
Pierre Ferracci, est-ce que vous avez mis en place une stratégie vaccinale ? Est-ce que l'ensemble de vos joueurs sont vaccinés, les joueurs professionnels ?
Pas tout à fait l'ensemble, parce que l'obligation n'existe pas en France. On incite tout le monde à le faire. Mais vous savez, dans ceux qui sont touchés là, on a quelqu'un qui est vacciné depuis quelques semaines et qui est quand même positif après l'avoir déjà été une fois. Donc la vaccination est importante et on pousse tout le monde à le faire, mais elle ne règle pas tout et malheureusement il y a des cas positifs avec le vaccin.
J'ai deux questions pour vous encore. La première concerne le mercato. Il est compliqué pour les clubs de Ligue 1, encore plus pour les clubs de Ligue 2. C'est un marché qui restera certainement fermé jusqu'à la fin août. Vous nous confirmez, c'est très dur pour un club de Ligue 2 de recruter cet été ?
Oui, c'est beaucoup plus dur que d'habitude. Bon, nous, on avait 5 cibles. Avec celui qu'on va annoncer la semaine prochaine, on sera dans les clous. On se réservera peut-être la possibilité d'en faire un sixième avant la fin août, parce que je pense que les choses vont se décanter. Mais je vous confirme que c'est difficile. Et puis, vous savez que tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sont en face de problèmes économiques extrêmement sérieux. Donc, tout le monde fait des économies et on sent que le mercato va être extrêmement compliqué pour tous les clubs cette année.
En revanche, la bonne nouvelle, c'est la diffusion gratuite du championnat. Le samedi soir, ça a fait un carton sur la chaîne L'Équipe la semaine dernière avec un pic de 1 million de téléspectateurs. Ça, c'est une excellente nouvelle.
C'est une bonne nouvelle pour la Ligue 2. Bon, on verra plus tard ce que ça a comme conséquence pour les droits de télévision. Parce que diffuser en clair, c'est bien. Et puis moi, je suis favorable à ça. Après, ça peut aussi avoir des conséquences sur les droits audiovisuels, sur le plan financier, qui vont toucher la Ligue 1 et la Ligue 2, qui sont déjà, comme vous le savez, après le fiasco et le scandale Mediapro, qui sont déjà extrêmement touchés par la baisse des droits audiovisuels.
Pierre Ferracci, est-ce qu'on peut vous lancer un défi sur RMC ce soir ?
Allez-y, ça dépend duquel.
Donc vous êtes le président du Paris FC, vous êtes très proche d'Emmanuel Macron, qui connaît très bien votre fils. Imaginons que le Paris FC monte en Ligue 1, est-ce que vous pouvez vous engager à nous mettre Emmanuel Macron à l'antenne pour fêter ça?
Oh bah écoutez, Emmanuel Macron, vous le savez, est supporter de l'Olympique de Marseille.
Ah mais il aime bien le Paris FC quand même.
Ouais, mais bien sûr, mais quand on supporte l'Olympique de Marseille, on peut pas être supporter du PSG, donc j'espère qu'il aura une petite attention pour le Paris FC, le petit club d'à côté, et pourquoi pas. Allez, je relève le défi, si on arrivait à faire ce que vous avez en tête, mais ça va être difficile, je m'engage à relever le pari.
Merci Pierre Ferracci, j'ai un autre défi pour vous, est-ce que vous pouvez embaucher Fred Piquion pour entraîner les attaquants du Paris FC, que ce soit chez les grands ou chez les jeunes?
Fred est toujours le bienvenu chez nous, il le sait très bien, il a connu le Paris FC très jeune, et il a toujours un lien sentimental et affectif très fort avec notre club.
Très bien, merci Président Ferracci d'avoir été avec nous, bon match demain, hein. Demain c'est donc à Charletti si vous voulez y aller, Paris FC Dunkerque, et le match d'ouverture de cette deuxième journée, ça sera Nîmes-Dijon à partir de 15h. Merci Monsieur Ferracci, à bientôt sur RMC. 19h55, Before Tokyo. After Tokyo pour moi. Je suis complètement rôti.
Salut les gars, salut l'after Fred, salut Benoît. L'after Tokyo, l'after Teddy Riner. On va revenir sur la journée de Teddy Riner, journée surprenante. Alors Teddy Riner a chuté, mais quand il chute, il ramène quand même une médaille de bronze. Sa quatrième médaille en 4 Jeux Olympiques. C'est exceptionnel. Benoît, médaille de bronze également pour Roman Dico en plus de 78 kilos.
Dream Team RMC Sport.
Et puis nous avons la Dream Team avec nous, Sarah Pitkowski, Gany Alouz qui a le sourire depuis cette nuit, puisque les compétitions d'athlétisme ont débuté. Ça y est, les épreuves d'athlétisme. Gany Alouz, grand patron de l'athlé français pendant une dizaine d'années. Il va nous annoncer s'il y a des chances de médaille d'or en équipe de France. Les Bleus vont-ils briller? C'est le débat dans l'After Tokyo 2020 sur RMC.
RMC Football Show.